France Inter.
Bonjour, je m'appelle Alain, à Noisy-le-Grand. La mairie et la BNP, championne du monde de la déforestation et des énergies fossiles, ont la volonté de raser le bois Louis-Lumière de 3 hectares pour construire 500 logements dans une zone déjà saturée. Le bois Louis-Lumière constitue un habitat pour de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et de chauves-souris en voie de disparition. Ce bois a un rôle de continuité écologique, c'est un puits de carbone et un espace de fraîcheur établi depuis des siècles. Un collectif s'est constitué pour empêcher la réalisation de ce projet d'un autre temps.
Très bonne émission sur Chauvet. Alors, je viens de la réécouter. Donc, une des intervenantes nous parle d'un jeune garçon qui a marqué de ses empreintes. Mais on ne sait pas, c'était une jeune fille. Oh là là.
Bonjour, Hugo, dans les Côtes d'Armor à Saint-Calguido. En ce qui concerne le bocage, ne serait-il pas possible de faire un peu plus confiance à la nature? C'est-à-dire, dans certains cas, laisser le temps à des bandes en friche de reconstituer une haie. On dit que la ronce est le berceau des chênes. Alors devrions-nous pas tolérer un peu plus la ronce avant de retrouver un bocage perdu?
Bonjour, Valérie de La Baule. Après avoir regardé le reportage Jura qui a peur du loup sur Arte, je suis affligée de ce nouveau choix politique anti-loup. Les tuer, d'autres les remplaceront. Un loup mort n'apprend pas, dit Jean-Michel Bertrand. Justement, des bénévoles de l'espace Loire-Atlantique proposent des ciné-échanges à l'issue de la projection du film « Vivre avec les loups ». Des séances sont déjà programmées à la Turbale le 15 mars, au Pouliguen le 29 mars, à Saint-Brévin le 12 avril. Trois spécialistes du loup, Pierre Jouventin, Jean-Michel Bertrand et Farid Benamou, clôtureront la soirée avec leurs réponses enregistrées suite à des questions posées sur notre page Facebook. On vous espère nombreux pour avancer sur ce sujet si clivant mais passionnant. Allez, au revoir et vive la terre au carré et CO2 mon amour.
Oui, bonjour Camille de Pont-Évêque en Isère. Merci pour votre émission sur Total. Et puis j'en profite aussi pour saluer le travail de Mediapart, vraiment, quels que soient les sujets, y compris le climat et l'écologie, vraiment, c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Donc merci pour cette invitation, merci pour cette émission très intéressante. Une petite anecdote qui va paraître dérisoire par rapport à tout ce dont vous avez parlé lors de cette émission, mais dans un magasin de jouets, une enseigne très connue, mon compagnon a trouvé un très joli garage automobile, vous savez, pour enfants, siglé Total Energy. Sans s'en rendre compte d'ailleurs, il a failli l'acheter pour notre petite fille avant de s'apercevoir du logo, qui est quand même pourtant bien visible. Un petit exemple quand même de soft power et de tentative de s'immiscer dans les esprits de nos enfants. Donc il y a quand même un... je pense que c'est quand même un peu révélateur de quelque chose. Au revoir.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez bien sûr nous appeler sur ce répondeur 24 heures sur 24 au 01 56 40 45 45. Le 5 février dernier disparaissait à l'âge de 101 ans l'ethnologue et éditeur Jean Mallory. Scientifique, aventurier polaire, défenseur des peuples premiers et écrivain, je recevais en 2015 cet esprit libre qui, jusqu'à la fin de sa vie, avait le regard toujours tourné vers les grandes steppes de Russie ou les banquises du Grand Nord. Au moment où il était notre invité, l'Arctique enregistrait déjà des records de température et il publiait une lettre à un Inuit de 2022, un essai en forme de cri d'alarme sur les changements en cours dans cette région du monde. Je vous propose aujourd'hui de le retrouver avec cette Terre au carré spéciale dans laquelle nous allons réentendre Jean Mallory évoquer son parcours depuis ses premiers voyages avec Paul-Émile Victor jusqu'à son rôle d'ambassadeur de l'UNESCO en passant par la création de la collection Terre humaine. Cette émission est réalisée par Valérie Ayestaraï avec Benjamin Wagon à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Bonjour Jean Mallory.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
Merci.
Dans la tête au carré. C'est la première fois qu'on se croise derrière un micro. Vous publiez Lettre à un Inuit de 2022 et le sous-titre de votre livre, Un regard angoissé sur le destin d'un peuple. Lorsqu'on regarde votre parcours d'aventurier des grands espaces, on a du mal à vous imaginer dans la peau d'un homme angoissé. C'est vraiment un mot qui vous convient, ça?
Dans l'Arctique, je suis serein. Car il y a, c'est abusif, du paléolithique en moi. Mmh. Donc, avec ces hommes, et surtout dans cet espace, je suis dans mon rythme, dans le milieu que je souhaitais ressentir. Et peu à peu, Ces hommes, que l'on juge en arrière de l'histoire, se sont découverts tout à fait différents, avec une très forte personnalité, et ils m'ont ouvert à ce que j'appelle l'animisme. Et l'animisme n'est pas de la sorcellerie, il conduit au confucianisme, au shintoïsme, à des grandes perceptions du monde.
Mais ça, c'est pas de nature à vous angoisser, ça.
Non, mais ce qui m'angoisse, c'est le progrès. Le progrès que l'Occident représente, l'Occident dont je fais partie, et qui n'a pas pris conscience qu'il y a de par le monde un ordre des peuples. Il y a un ordre de la nature, la COP21 en a rendu compte. Nous osons, j'oserais-je dire, explorer même le spermatozoïde.
On va le voir dans un instant.
Et l'inventer. La science ne comprend pas qu'elle a des limites. Et en matière de climat, il y a un début d'avertissement. Mais ce que nous n'avons pas compris, nous occidentaux, c'est qu'il y a un ordre des peuples. Et que les peuples qu'on dirait derniers seront peut-être les premiers.
Et on
peut-être que les peuples primitifs sont des peuples qui pourraient nous enseigner une autre philosophie. Et je milite pour un institut, non pas de l'art premier, comme ainsi que je le disais à mon ami Jacques Chirac, mais un institut de la pensée première.
C'est donc un cri d'alarme que vous lancez dans cet ouvrage au peuple du Groenland. Et que vous secouez aussi d'une certaine manière, parce que vous leur dites, il faut vous réveiller les gars là, hein, il y a urgence, hein, et vous ne voyez pas le danger venir.
C'est un peuple qui a 10 000 ans, ils ont affronté des climats terribles, et bien que nomades, ne sont jamais partis vers le sud, contrairement aux Indiens peaux rouges. Leur biotope, c'est la glace, c'est le froid, et les changements de climat, ils ont toujours su s'adapter. Naturellement, il y a eu des famines, il y a des groupes qui ont disparu, mais il y a une relation intime avec la nature qu'il m'est très difficile dans cette émission de faire percevoir.
Oui, pourquoi ?
Parce que les mots ne répondent pas à la vérité. C'est une relation singulière entre l'homme et l'invisible, entre des forces qui sont physico-chimiques et qui établissent un écosystème. Et ces hommes qui ont des chamans ont une sagesse. Et ils ont le sentiment que la science européenne, la science américaine, la science de l'homme blanc nous conduit à notre perte.
Ouais. Et alors c'est une science en plus et une technologie qui s'intéresse aussi aux richesses du Groenland quand même, parce que c'est un pays, une terre qui est très convoitée. Et qu'on va dépouiller probablement de ses richesses.
D'abord, la première richesse, c'est sa position géographique, géostratégique extraordinaire. Je suis le témoin, en juin 51, de l'invasion de Thulé par une force secrète de l'US Air Force qui construit une base nucléaire pour éventuellement écraser Moscou et Pékin de bombes nucléaires. À la demande du chaman, Outak, accompagné de deux chasseurs armés de fusils. J'ai dit au général, « Go home, vous n'êtes pas le bienvenu. » Le chaman voyait loin. Quelques années plus tard, un B-52 s'est écrasé avec 4 bombes H. 3 se sont pulvérisées, contaminant ses eaux virginales de ce pôle que l'on dit apollinien, qui est un haut lieu dans l'histoire mythologique. Et une quatrième est toujours sous l'eau. On ne peut pas dire que le progrès ait réellement ouvert le Grand Nord à un grand destin.
Jean Mallory, en 69, vous réalisez votre premier film pour la télévision française, justement, intitulé « Les derniers rois de Thulé ». Extrait.
Nous sommes ici à Thulé, avec les Esquimaux polaires les plus nordiques. C'est la fin de l'hiver. Le jour se lève après une longue et dure nuit de 3 mois. Il fait moins 30 degrés. Les chasseurs se sont dispersés pour assurer leur survie. Ces animaux humains, ainsi ont-ils été jugés lors des premières rencontres, s'efforcent dans un trou de glace, au travers d'une épaisse banquise de 2 mètres, de pêcher des poissons qui ressemblent aux limandes de nos régions. Les deux guetteurs remarquent un léger frémissement du fil. Un geste d'Inutersuak, le plus habile pêcheur au dire de tous, et la ligne méthodiquement étirée.
Voilà, on y est avec vous, Jean-Mallory, là. On sent, on voit cette neige qui craque sous nos pas avec bien cet hivernage que vous avez réalisé en 1950 et cette vie partagée avec les habitants de Tulé.
J'étais seul,
ouais.
Sans crédit, car j'ai voulu devancer lors de mission du CNRS.
Ouais.
Ce fut ma chance.
Déjà un homme pressé.
Sans crédit.
Hein. Ouais.
Donc, en immersion avec ce peuple, ils sont 302. J'ai appris leur langue, j'ai vécu comme eux, et peu à peu j'ai découvert non seulement qu'ils avaient une sagesse, mais que de ces glaces, de ces montagnes, de cette roche ordovicienne qui a 500 millions d'années, émanait une force invisible. C'est difficile, avec des mots cartésiens, de faire comprendre cette énergie de la matière,
ouais.
Cette sagesse de notre univers. Il y a là une possibilité de compréhension d'un ordre qu'il ne faut pas dépasser. C'est le rôle des chamans. Malheureusement, vous, moi, appartenons à un Occident qui est raciste. Le racisme, il est inhérent. Nous l'avons été avec les Noirs combien de siècles. Mais nous le restons. C'est un racisme dramatique qui fait que un immense capital, qui est le capital de l'histoire du monde, est tous les 15 jours perdu. Tous les 15 jours, une langue disparaît.
Ouais. On écoutera Paul-Émile Victor, d'ailleurs, hein, qui avait exactement les mêmes propos que vous aujourd'hui. Vous parlez de la glace, précisément, Jean-Mallory. On apprenait il y a quelques jours que l'Arctique avait enregistré des records de température. Et ça fait l'objet d'un reportage dans le journal de France Inter le 16 décembre.
L'année 1948 paraît bien loin aujourd'hui. À cette époque-là, l'explorateur Paul-Émile Victor raconte son expédition au pôle Nord. Sur le bateau, les hommes guettent la glace en fumant la pipe.
Salut ! Quel but cette fois ? Le désert de glace du Groenland. Ce soir, tous les yeux sont braqués vers tribord où apparaît une chaîne de montagnes couverte de neige et de glace.
Aujourd'hui, la glace fond, la banquise régresse en surface et en épaisseur. Il fait en moyenne 3 degrés de plus qu'au début du XXe siècle. Et l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que d'autres régions de la planète. Un autre explorateur, Jean-Louis Etienne, expliquait récemment pourquoi sur France Inter.
L'Arctique est touché d'une manière beaucoup plus forte que l'ensemble des régions du monde pour une raison simple, c'est que l'Arctique change de couleur. C'était une région qui était blanche pratiquement toute l'année, recouverte de glace qui réfléchit le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il y a des zones qui se découvrent et sur l'océan et sur les terres et deviennent des capteurs. Donc accélère, si vous voulez, le fait que l'Arctique se réchauffe et libère en même temps davantage de méthane. Donc c'est devenu un acteur sérieux du changement climatique.
Exemple de conséquences sur la faune, les morses qui utilisent la glace pour se nourrir, pour s'accoupler, pour mettre bas, cherchent refuge sur la terre ferme, en Alaska par exemple, mais ils sont trop nombreux et peinent à s'alimenter, souligne le rapport.
Voilà ce reportage de Julie Pietri. Jean-Mallory, qu'est-ce que ça vous inspire? Ces températures qui n'ont jamais été aussi élevées en 115 ans.
Vous savez, l'histoire de l'Arctique et l'histoire de l'univers est longue. Il y a eu des réchauffements. Il a été très important au début de l'ère chrétienne au Groenland, jusqu'en 1500. Puis il y a une période de glace, une période froide, The Little Ice Age. C'est l'histoire de l'Arctique. L'Arctique, pour de nombreux peuplements, en son réchauffement, apporte la fortune. Il y a, bien sûr, les glaces vont être libérées, mais il y aura des mers libres.
Donc c'est des voies de passage, pour les bateaux.
C'est une voie de passage,
ouais.
C'est la fortune. Et comment on a dénaturé ces peuples? En leur faisant oublier leur sagesse, qui est leur sagesse chamanique, leur lecture de la glace, la lecture des équilibres, avec des interdits dans les périodes froides, d'autres libertés dans les périodes favorables. Ces peuples ne savent plus à quel saint se vouer. Et cette jeunesse qui est au Groenland connaît des taux de suicide véritablement pas alarmants, dramatiques. Ce que je veux dire, c'est que il faut prendre la mesure de l'univers à l'échelle de toutes les latitudes. Ce réchauffement en nord de la Sibérie, au nord du Canada, permet le passage du Nord-Ouest. permet aux grandes nations d'exploiter le pétrole, d'exploiter le minerai. Le malheur du Groenland, c'est qu'ils ont des grands minerais, l'uranium, et tout récemment, le ministre de l'Industrie de Pékin est venu rencontrer le jeune gouvernement du Groenland pour exploiter l'uranium. Après les Chinois, le président sud-coréen a visité le Groenland dans le même but. Voilà donc des peuples déculturés par l'Église, déculturés par l'école, donc ayant perdu leur sagesse, et qu'on invite à participer à une société de profit. Et ils voient bien que c'est leur ruine, et qu'ils seront, comme dans certains pays africains, l'objet de grandes opérations des sociétés qui s'enrichiront, le peuple étant profondément appauvri.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started?
Olivia Dean, The Hardest Part sur France Inter et la suite de cet hommage à Jean Mallory.
La Terre au carré sur France Inter.
Jean Mallory, quel destin. Vous êtes le premier homme au monde à être allé, par exemple, au pôle Nord magnétique. C'était en 1951. On va parler bien sûr de votre défense des Inuits. Et la COP21, c'était il y a quelques jours à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce grand rendez-vous sur le climat? Est-ce que justement les Inuits ont eu leur part dans ce grand rendez-vous diplomatique?
J'ai été invité, j'ai été d'autant plus invité que lors de la séance de film est passé un film américain qui est mon portrait et qui est un hommage. Je n'y suis pas allé parce que les Inuits n'étaient pas invités.
Ouais. Et donc vous avez marqué votre mécontentement?
Ben naturellement. Oui. D'autant plus que j'étais invité le surlendemain par l'ambassadrice des États-Unis lors d'un dîner où j'ai rencontré tous les partenaires de cette grande conférence, mais je n'ai surtout vu que des banquiers.
Oui.
Et une centaine. J'ai rencontré, Dieu merci, mon ami Brice Lalonde, et nous avons pu parler de cette conférence, Mais en effet, les autochtones ne pouvaient pas être invités parce qu'ils sont sous tutelle. Et c'est les États. Je salue naturellement le ministre Fabius qui a réalisé une opération extraordinaire. Mais pardonnez-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi les peuples, et les peuples qui, depuis des millénaires, ont un avis. Et ce qui est très difficile, et ce que je souhaite faire passer dans cette émission, c'est qu'on est toujours ému quand on parle des Inuits ou des peuples, il y a de la Sibérie, l'Orar, mais c'est esthétique, notre réaction. Ce que l'on ne voit pas, c'est que derrière ces manteaux en peau de poisson, il y a une pensée. Ce que je voudrais, c'est que ceux qui m'écoutent comprennent qu'il y a une pensée. Tout à l'heure, vous avez introduit l'émission avec cette prouesse de...
spermatogénèse.
Ouais. Artificielle. Mais science sans conscience ne peut conduire qu'au malheur.
Ouais, vous êtes très critique. Hein.
Je ne suis pas critique, mais je me souviens des propos de Einstein disant « Mais surtout, arrêtons dans la ligne que j'ai ouverte, c'est la fin de l'univers ». Alors, à propos de la conférence des COP21, naturellement, je souhaite qu'il y ait maîtrise des changements de climat, maîtrise des pollutions. Mais s'il vous plaît, dans le même temps, nous construisons des bombes nucléaires, il y a des sous-marins nucléaires sous les glaces du pôle, il faut être intelligent et comprendre que l'homme blanc, l'Occident, est en train de creuser sa tombe. Et les peuples derniers seront peut-être les premiers pour essayer de nous rappeler ce qu'on appelle la sagesse.
Si on arrive à les écouter et à les entendre.
Il y a des peuples... Ces peuples, ils sont 1 million d'hommes et de femmes, indiens, subarctiques, inuits, sams, nord-sibériens. Il se trouve que la grâce de l'histoire a fait que, en 1990, j'ai été mis par le président Gorbatchev à la tête d'une expédition soviétique en Tchoukotka, où j'ai découvert un Stone Age prodigieux qui s'appelle l'allée des baleines, ouais, qui montre qu'au XIVe siècle, ces peuples, avec des baleines qui ont 20 mètres de long, qui pèsent des tonnes et des tonnes, ont construit un site très singulier qui a une cosmodramaturgie, où ils prouvent qu'ils ont une science des nombres. Les crânes que j'ai étudiés et disposés le long de la côte démontrent des rapports père-impair de science yiking, bref, une science complexe, et qui répond un peu à ce que dit de moi un philosophe. Le jour, ma pensée est cartésienne, mais la nuit, elle est bachelardienne, et c'est vrai. Et là, je retrouve avec Bachelard et avec ses Inuits un pouvoir considérable pour sentir le battement du monde.
Ouais. Alors, sauf que vous n'êtes pas totalement critique de la science, parce que vous dites, par exemple, que les neurosciences auraient beaucoup de choses à nous apprendre sur l'animisme, par exemple.
Mais d'abord, les neurosciences, qui font des progrès considérables, nous font saisir que ces hommes disposaient de ce qu'on appelle la perception de la cinquième force. C'est ce que Ernest Solvay a démontré de façon brillante, et qui nous fait saisir qu'il y a un battement du cœur dans la nature. Et les Inuits qui m'appelaient l'homme qui parle avec les pierres, parce que toute ma vie, je me suis passionné pour la géocryologie, c'est-à-dire un équilibre entre les pierres qui sont détachées des grands versants nord-groenlandais, qui s'accumulent en chaos, c'est-à-dire c'est un éboulement, et puis avec le temps, car c'est la longue, très longue durée dans ces déserts très lointains, 500 millions d'années, je m'intéresse à l'ordovicien, c'est-à-dire les premières mers qui recouvrent le socle, et là, ces miettes de pierre provoque naissance de marne, d'argile. Cette pierre que j'étudie passionnément, il se trouve que les Inuits l'écoutent, car ils perçoivent son battement. Et au laboratoire, j'ai pu sentir que dans ces pierres, dans les canalicules, il y a des substances humides qui ne gèlent qu'à des températures positives, plus 40 degrés. Donc une petite pierre connaît toute une dramaturgie. À l'extérieur, c'est moins 4, à l'intérieur, c'est plus 40. Ça, c'est l'histoire de l'univers. Il y a une des complexités extrêmes que les Inuits, comme les peuples premiers qu'ils soient, les Nambiquara de mon ami Lévi-Strauss, ça peut être les Australiens des déserts, les Papous, tous ces peuples en arrière de l'histoire perçoivent cet ordre que nous, dans nos sens très fatigués, nous n'avons plus. Nous n'avons plus ce savoir paléolithique.
Jean Mallory, on va écouter l'extrait du film Inuk de Mike Magidson. On l'a volontairement pas traduit pour entendre aussi la langue du peuple inuit. Voilà, à la fois la langue inuite et la langue danoise, Jean Mallory, et la vie d'un jeune homme, Inuk, qui va se perdre dans la ville et qui va perdre aussi un peu de son âme.
C'est tout le sens de mon livre. Le livre suit un itinéraire qui a commencé en effet dans les expéditions Ptolémée Victor sur le grand glacier du Groenland.
Oui.
J'ai été désigné par l'Académie des sciences pour aborder ces grands problèmes de géocryologie, de géomorphologie sur la côte ouest du Groenland. Peu à peu, dans le cours de deux missions, j'ai pu préciser cet équilibre des pierres que je vous ai évoqué, ce battement entre une terre qui se déleste du glacier et qui, à ce moment-là, s'élève, ce qu'on appelle la glacio-isostasie, et puis les mers qui, du fait de l'apport de l'eau, vont monter, c'est le statisme, les plages soulevées. Tout ceci faisait l'objet de mes travaux. Et puis je suis parti à Tulé. Comme je vous l'ai dit, j'étais seul, en immersion. Et peu à peu d'abord, j'ai fait à leur demande de ce peuple inuit complètement isolé à l'extrême nord du monde, sa généalogie. Elle n'avait jamais été faite et ils s'en préoccupaient car beaucoup de femmes étaient stériles. Alors je leur ai dit, c'est peut-être pas les femmes, c'est peut-être les hommes. Donc nous sommes partis avec le fils de ce grand chaman, Gutiketok, et pendant tout l'hiver, en traîneau à chien, par des températures très basses, je suis allé d'igloo en igloo dans 70 familles. Et avec beaucoup de diplomatie, j'ai pu interroger les femmes sur le temps de leur ménopause, leur première menstruation, je précise qu'elles sont entièrement sous la maîtrise du cosmos, c'est-à-dire que l'hiver, elles n'ont plus de règles. Et peu à peu, j'ai pu dresser une généalogie très précise.
Et alors, qu'est-ce que ça révèle alors ?
Elle prouve, sur trois générations, que ce peuple, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, a eu la maîtrise. Ils ont toujours évité
la consanguinité,
la consanguinité en évitant les mariages jusqu'au cinquième degré. Cette approche que j'ai faite avec ces hommes s'est doublée par la suite d'une étude très approchée par l'étude des pierres. Et c'est alors que par des échanges, par des propos, ils ont me fait sentir l'intelligence qu'ils avaient de cette nature. Et cette nature qu'ils écoutaient aux pierres leur permettait de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur à faire, il n'y a pas d'excès. Et que cette sagesse qu'on appelle la sagesse des peuples premiers, pour moi c'est la pensée première, est vitale. Je le dis parce que je ne vous convaincrai peut-être pas, parce que c'est tout de même étrange de voir ces mangeurs de chair crue. Bon, on se dit franchement, ils ne sont pas à l'avancée de la pensée. Mais si, parce que nous allons vers une tragédie. Et la sagesse, c'est ces peuples en réserve de l'histoire qui disparaissent tous les 15 jours, et je le redis, il est nécessaire qu'il y ait un institut de la pensée première.
Dans un instant, la suite de cet hommage à Jean Mallory, ce sera juste après Camille Passauvert.
France Inter, la Terre au carré.
avec une star qui a un nom digne d'être un enfant d'Elon Musk, oui. A23A. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un iceberg qui a fait les gros titres de la BBC. Mais pas que, là c'est la télé américaine par exemple.
The world's largest iceberg is now drifting beyond Antarctic waters. Known as A23A, the iceberg measures around 1500 square miles.
Et le voilà aussi désormais sur France Inter. A23A est présenté comme l'iceberg le plus grand du monde. Alors suivant l'endroit où on est, on adapte, hein, 3 fois la taille de New York, 2 fois celle de Londres et 38 fois celle de Paris. Bref, 4000 km². Il s'était échoué il y a presque 30 ans, en 1986, sur des hauts fonds, dans l'Antarctique donc, et le voilà qui dérive désormais. En fait, il se serait échappé dès 2020, mais sa course est bien visible en ce moment. Des images satellites montrent l'immense bloc en train de remonter ce qu'on appelle l'allée des icebergs, hein, c'est un joli nom, en plein océan et fascine. Donc, avec un rebondissement, vendredi dernier, une nouvelle pièce dans la machine, quand le Sir David Attenborough, pas le célèbre présentateur télé britannique, mais un brise-glace d'études océanographiques à son nom, naviguant en direction d'une base en Antarctique, a vécu cette scène.
Un iceberg droit devant !
A23A, pile sur son chemin, mais pas de scénario à la Titanic, non. Le navire a contourné l'iceberg et même fait plein d'images par drone, piloté par Teresa Gossman de la British Antarctic Survey, que j'ai pu joindre à bord.
Oui, c'était bien le fun. T'avais juste un gros mur devant les fenêtres et on passait devant l'iceberg pendant quelques heures. Et c'était juste l'iceberg tout le long. Une grosse façade froide, mais aussi comme chaleureuse, parce qu'il y avait tellement de gradients de couleurs, de bleu et de blanc. Bleu turquoise, on voyait aussi des caves. Les caves, c'est comme vraiment bleu foncé, noir. Et on pouvait voir les différentes couches d'accumulation de la neige au cours du temps, qui s'est transformée en glace. Et des fois, on entend un peu de craquement et des oiseaux autour, et c'est assez impressionnant.
Le gros coup de bol.
Ouais, c'est un coup de chance.
Et comme l'équipage est occupé depuis la mi-novembre à étudier les effets de la glace de mer, une expédition de 6 semaines avant de rentrer à Cambridge pour le nouvel an, les chercheurs en ont profité pour ausculter l'iceberg A23A et ses potentiels effets à lui aussi sur l'océan.
Donc on a pris des échantillons de salinité, de nutriments, d'oxygène dans l'eau, toutes sortes de choses pour comprendre c'est quoi l'impact de l'iceberg dans l'océan. Et on a essayé de faire un genre de gradient, prendre des mesures de très loin jusqu'à très proche du iceberg pour vraiment voir c'est comment l'eau est influencée par la fonte de ce gros iceberg.
Le tout sous l'œil d'orques qui zonnait dans le coin. Mais l'enthousiasme suscité par la dérive de cet iceberg a été douché par le glaciologue Gaël Durand.
C'est plus de l'ordre de l'anecdote que de la breaking news.
Directeur de recherche CNRS à l'Institut de géosciences de Grenoble, spécialiste de la dynamique des calottes polaires et de leur impact sur le niveau des mers, donc il sait quand même de quoi il parle. Cet iceberg ne représente aucun danger, même pour la faune locale. Et 2, ce que les glaciologues appellent le vélage, c'est-à-dire la production d'icebergs qui se détachent d'un glacier, est un phénomène très classique.
Le vélage d'iceberg est un processus complètement normal et naturel. Les calottes polaires, elles se forment par accumulation de neige. Cette neige, elle se densifie, elle s'écoule, elle va jusqu'à la périphérie du continent. Et puis après, elle se casse en iceberg qui se met à flotter.
Comme A23A, donc, dont on parle surtout parce qu'il est énorme. Mais ce qui se passe en Antarctique, le devenir de sa masse, est suivi de près par les scientifiques. Gaël Durand explique.
L'évolution de l'Antarctique pour les décennies et siècles à venir est la plus grosse incertitude sur l'élévation du niveau de la mer, et c'est ce qui pourrait nous valoir une certaine surprise climatique, dans le sens où ça pourrait augmenter le taux d'élévation extrêmement rapidement et de manière importante. Donc il y a un suivi important de l'Antarctique, chercher à mieux projeter, comprendre comment l'Antarctique va évoluer et suivre la fracturation des icebergs en fait partie.
Voilà, parce qu'un iceberg qui se détache, c'est signe de glace qui fond, par exemple. Que pense-t-il d'ailleurs de l'avenir de notre iceberg A23A ?
Il peut se scinder en plusieurs parties, et puis chacun des icebergs qui se forment va vivre sa vie. La certitude, c'est qu'à la fin, il finira liquide.
Et voilà, au moins c'est clair. Mais d'ici là, A23A aura eu le mérite de captiver et de parler de la situation en Antarctique dramatique, hein, je le rappelle. Mmh. Allez, petite carte postale pour finir, en direct du Sir David Attenborough.
C'est le top de l'été. Donc, il n'est pas plus froid que moins 5, disons. On a beaucoup de la glace de mer détachée, donc c'est pas uniforme, mais c'est des petits bouts de glace qui flottent. Le ciel est couvert, mais c'est très illuminé. Une mer très calme, donc on est quand même assez chanceux.
Voilà, et bon voyage donc à A23A.
Et dans un instant, la suite et la fin de notre hommage à Jean Mallory sur France Inter. Bon après-midi avec la Terre au carré, juste après la complainte du phoque en Alaska avec Beau Dommage.
Crémoué, crémoro, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il voudrait voir sa blonde faire un show.
Beau Dommage avec la complainte du phoque en Alaska et on retrouve la dernière partie de cet entretien hommage à Jean Mallory.
La Terre au carré sur France Inter.
Jean Mallory, vous êtes notre invité cet après-midi. Lettre à un Inuit de 2022, c'est donc ce récit aux éditions Fayard. C'est la résistance qui vous a construit, Jean Mallory. Vous ne seriez jamais parti, probablement, chez les Inuits sans avoir vécu cet épisode de votre vie. Hein.
C'est un moment dramatique de l'histoire de France. C'est cette mobilisation à la demande du gouvernement nazi, de la jeunesse qui est née en 1920, 21, 22, qui doit sans exception travailler 2 ans dans les usines nazies militaires. Pour moi, c'est intolérable. Et ce que j'ai appris, protégé par des réseaux dans le Vercors et dans d'autres secteurs, très recherché par la police, ça a été vérifié par la suite, j'ai appris la détestation d'une intelligence sans morale. Il se trouve que nous étions bien seuls dans cette résistance. C'est vrai, De Gaulle, mais il était loin. Et ces réseaux ne survivaient pas 2 ou 3 mois. Mais il y avait l'Académie française. Pas un mot de Paul Claudel. Il faisait ses prières à Ézéchiel. Pas un mot de Paul Valéry, qui écrivait peut-être ses essais. Pas un mot des autres académiciens. De même pour l'Académie des sciences, et le Conseil d'État, et le Cour des comptes. C'est la trahison des élites. Je le dis parce que nous vivons des moments très difficiles actuellement en France. Et j'en ai conscience. J'en ai conscience pour les jeunes chômeurs. Ils sont seuls. Et je l'ai appris, et j'ai appris donc cette vertu de résistance. Et j'ai décidé, alors que je préparais le concours de l'École normale supérieure, qui était naturellement impossible compte tenu de cette vie de clandestin avec des faux papiers, j'ai décidé d'être construit comme homme par des peuples premiers.
Alors justement, Jean Mallory, il y a aussi cette collection Terre humaine des éditions Plomb en 1954, dont le premier justement livre raconte les derniers rois tulés que vous avez écrit. Et c'est ça aussi l'esprit de cette collection, c'est donner la parole à ces personnes qu'on n'entend pas, et pas seulement d'ailleurs les Inuits. Hein.
Vous savez, je me souviens de ma soutenance de thèse, qui était un moment très solennel, une thèse de doctorat d'État, c'est 14 ans de travail. Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, 15 ans.
Ouais.
C'est un moment très important. Il y a une thèse principale, moi c'était les cartes, la géocryologie, j'étais couvert d'honneur. Mais il y avait une thèse secondaire sur les peuples dans leurs croyances. Et mon président du jury, et beaucoup d'autres membres, me disaient, enfin, Jean Mallory, allez voir plutôt André Breton, les surréalistes, pardonnez-moi, Duchamp, bon, mais enfin ici c'est la science, c'est la Sorbonne. Régner ce racisme, heureusement il y avait Roger Bastide, le grand spécialiste du maître Condomblé, qui a rétabli un peu l'ordre. Mais les sciences sociales ont beaucoup de mal à comprendre que ces peuples ont une pensée. Et c'est ainsi que j'ai créé cette collection.
Mais vous êtes intéressé à tout le monde, les clochards de Paris, les Bretons, les mineurs de fond.
Quels qu'ils soient, pour moi, tout ce qui représente une pensée et minoritaire. Vous l'avez dit, un clochard, de Clercq, qui a parlé, qui a exprimé sa détestation, oserais-je dire, des gens bien. Un braqueur de banque, Claude Lucas, j'ai été en quelque sorte sa conscience au moment du procès. Ouais. Il a été jugé, il avait déjà fait 20 ans de prison, et je dois dire que le livre qu'il a publié, SURT, l'a aidé à se réinsérer. Mais naturellement, les peuples autochtones, à commencer par Triste Tropique de mon ami Claude Lévi-Strauss, qui est, oserais-je dire, l'homme qui m'a inspiré et qui osait dire « Je cherche dans la Sorbonne un sauvage, le seul, c'est vous !»
Ouais, alors justement, Claude Lévi-Strauss, je voulais quand même qu'on le réentende avec vous, Jean Mallory. Voilà.
C'est le maître de la pensée sauvage qui m'a habité toute ma vie.
Et c'est le deuxième livre de la collection Terre humaine.
Triste Tropique, dans ma pensée, c'était un roman. Quand je suis rentré de ma dernière expédition et du Brésil, c'était au début de 1939, j'ai donc eu quelques mois pour essayer de me réincorporer à la vie française avant la guerre et la mobilisation. Et ces quelques mois, je voulais les utiliser, j'avais décidé de les utiliser à écrire un roman. Et un roman qui s'appelait « Triste Tropique », c'était le titre. Et puis au bout de 50 pages, je me suis aperçu que j'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné. Et quand, bien des années plus tard, en 1954, Jean Mallory m'a demandé d'écrire un livre pour sa toute jeune collection Terre humaine, n'est-ce pas, qui en était à ses débuts, j'ai écrit celui-là, qui n'est pas un roman, mais où, en souvenir, j'ai gardé le titre de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire « Triste Tropique ». Vous savez, c'est un livre que j'ai écrit, je dirais presque, dans l'exaspération et dans l'horreur.
Voilà, mais vous avez bien fait de le publier, Jean Mallory. Hein. C'est un énorme succès, évidemment.
C'est un succès, c'est surtout une pensée. Mmh. C'est un... Lévi-Strauss, et je suis son disciple, et puis il y a Philippe Descola, et puis quelques autres. Nous militons pour cette pensée sauvage, c'est le titre d'un des livres de Lévi-Strauss. Mais nous avons beaucoup de mal, je vous l'ai dit, à cette grande conférence sur les climats. Bah, il n'était pas présent. J'avais demandé à la direction de l'UNESCO d'envoyer un message à tous les représentants des peuples autochtones du monde entier pour que, avec le temps, ils réfléchissent et disent comment ils ressentent les changements de climat. Mais non. On a fait venir quelques autochtones, mais qui ne représentaient pas, oserais-je dire, une tradition commune, et qui est multiple. Mais ces peuples nécessairement naturels, qu'ils soient dans les forêts brésiliennes ou qu'ils soient dans le Centrafrique, ont une conception très différente de nous, des pulsations de l'univers et des changements et des moyens d'y faire face. Mais non, nos corps... Je suis ambassadeur à l'UNESCO et j'ai toute ma révérence pour ce grand corps. Mais nous sommes habités par des freins. Et ces freins tiennent précisément à cette autorité que nous, occidentaux, nous nous accordons. Si j'étais un jeune Inuit au Groenland, déculturé, on m'a appris que mes pères, chamans un peu sorciers, c'est ainsi qu'on les appréciait, ne sachant pas lire et écrire, étaient en arrière.
Oui.
Alors on m'a déculturé d'abord avec un enseignement ecclésiastique, mais le christianisme a appris que tout cela était péchés et qu'il fallait par la pénitence se préparer pour les félicités éternelles. Et puis, le message de Jésus, c'est le partage des biens. Et voilà-t-il pas que peu à peu l'autonomie s'établit au Groenland, j'ai joué un certain rôle, et ils obtiennent tous les pouvoirs, sauf le pouvoir militaire, il n'y a pas une grande armée groenlandaise, ils sont que 57 000, et le pouvoir diplomatique.
57 000, la population, hein.
Population,
c'est pas l'armée.
Qui parle parfaitement sa langue, qui a toutes les structures. Et ils sont enfin autorisés, avec l'autonomie, à aller au Danemark. Alors là, ce christianisme qui était un christianisme de partage, un christianisme évangélique, mais c'est pas ça du tout. C'est des banques, c'est le profit, c'est la réussite. Alors, c'est le malheur. Et ce malheur, quand vous serez à Copenhague, vous le toucherez du doigt. À 100 mètres du Parlement, à Christiania. Christiania est un quartier habité par tous les ratés de l'histoire. Les drogués, les Groenlandais, tous les vaincus qui sont là. C'est une contre-culture. Le progrès, ils n'en veulent pas. Et ils n'ont pas tort. Mais ils ne savent pas. On les a dévitalisés. Ils ne savent pas se dresser.
Alors justement,
et mon livre, c'est pour qu'ils se réveillent.
C'est ça. Ben justement,
c'est de résistance.
Jean Mallory, cette vitalité, justement, qu'on sent chez vous, cette énergie, cette force vitale, vous la puisez où ? C'est vraiment ce rapport à la nature, au fond, qui vous anime aujourd'hui ?
D'abord, c'est mes ancêtres. C'est mes ancêtres peut-être écossais. Mais le peuple russe m'a compris très vite. Et ce, dès que j'ai obtenu la chaire de polaire, la première chaire de l'université française, soutenue par Claude Lévi-Strauss, par mon ami Fernand Braudel, par Lucien Febvre, mais immédiatement les Russes m'ont demandé de venir pour signer un accord. Nous sommes dans une période soviétique. J'ai toujours eu de bons rapports avec les Russes, qui voyaient de plus loin. Et les Russes ont parfaitement compris que ce qu'ils appellent les peuples frères, les peuples racines sont essentiels. Tout n'est pas parfait dans ce qui a été envahi et imaginé pour les peuples du nord sibérien. Mais au moins protéger leur culture, au moins protéger leur langue. Et c'est ce qui fait qu'en 1990, j'ai eu une mission extraordinaire dans la Tchoukotka, pays longtemps habité par les goulags. J'ai découvert que rien n'était parfait dans leur système, notamment que les chamans, par suite du marxisme dialectique léniniste athée, étaient persécutés, voire fusillés. Et c'est lors d'une rencontre à l'école du parti où j'ai rendu compte, je leur dis « mes amis ». J'ai jamais dit « camarades », c'est à l'école du parti à Leningrad, « mes amis ». Lénine s'est peut-être trompé. Marxiste, c'est une doctrine. Dialectique, c'est une méthode. Léniniste, je ne juge pas. Athée, ce n'est pas possible. Les chamans, c'est une colonne vertébrale de ces peuples. Et on a créé une académie polaire, une école, des cadres de 1600 élèves pour tous ces peuples nord-sibériens qui sont 500 000. C'est un modèle. Les Russes sont les plus avancés au monde pour former ces cadres qui peuvent créer ce que René Dumont appelait une écologie humaine.
Jean Mallory, pour terminer, très vite, vous cherchez un mécène en ce moment ?
Oui, moi j'ai été sur un tapis magique et j'ai reçu, grâce à mon ami Alexandre Orlov, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris, un message du gouverneur de Saint-Pétersbourg qui m'offre, au nom du gouvernement russe et de la ville de Saint-Pétersbourg, un palais sur le bord du grand canal Fontanka. Bon, il y a des réparations à faire. J'ai besoin.
Mais vous allez faire quoi dans ce palais ?
D'abord, exalter cette pensée première. Pensée première. J'ai plus dit peuple premier. C'est pas seulement des objets. Donc, nourrir cette résistance des écologistes autochtones contre les pétroliers, contre ceci, contre cela, mais avec une pensée. Viens avec moi un grand préhistorien français, Henri de Lumley. Nous allons entreprendre un programme d'archéologie avec les élèves de l'Académie polaire. La langue française est la première langue étrangère obligatoire. Il y a 1600 élèves. Et c'est les meilleurs, on les enverra à Totavel, à Lascaux. Et c'est ainsi que ce sera, avec un enseignement numérique circumpolaire, Je ne dis pas qu'on fomentera la violence, c'est la résistance à la destruction inconsidérée. Le développement est nécessaire, mais avec sagesse.
Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, cent mille âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai,
j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée.
Me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses s'essoufflent avant la fin. Proche et pourtant bien assez loin.
Voyou et Vanessa Paradis avec le bal sur France Inter. Demain, dans la Terre au Carré, ce sera le reportage grand format de Guy Van Til, consacré à l'extractivisme à la française. Guy nous emmènera dans deux lieux qui mobilisent aujourd'hui beaucoup les militants. Tout d'abord, le bassin d'Arcachon, autour des projets de nouveaux puits de pétrole, portés par le groupe canadien Vermilion. Et ensuite, dans l'Allier, où le groupe de minéraux Emrys porte l'un des plus gros projets européens de mines de lithium à Échassières. Extrait de ce reportage avec le témoignage de Cécile, du collectif de défense de la forêt des Colettes dans l'Allier.
Alors ce qu'on voit là, donc c'est la carrière. Donc il y a la forêt des Colettes au-dessus. En dessous, on voit une roche qui est rouge foncé. Ouais. C'est du mica schiste. Et après, on aperçoit du blanc. Et là, c'est le granit. C'est le fameux granit des Colettes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le lithium est à l'intérieur du mica, donc des petits grains brillants. Et c'est là où on comprend toute la complexité de ce projet-là. Là, on n'a pas de filon. Il faut vraiment les récupérer, tous les petits grains de mica. Derrière, il va falloir broyer ce granit, le transformer en de la farine, séparer tous les grains donc via des processus de concentration qui engagent énormément de quantité d'eau et d'intrants chimiques. Et puis après, derrière, il va falloir faire ce processus de conversion pour aller éclater la structure cristalline du mica et récupérer le lithium. Et là, se joue un enjeu important, c'est que plus de 90% de la roche extraite ici, ce sera du déchet. Et du déchet qu'il va falloir stocker, qu'il va falloir gérer. Et ce déchet entraîne avec lui, dissout avec lui, des sels, des métaux, et les entraîne dans le sol, ces métaux lourds et ces autres polluants. ce qu'on appelle la lixiviation. Ça arrive sur tous les sites miniers. Et cette pollution, elle devra être maîtrisée par Imerys, qui s'engage à le faire. Mais pour autant, comment peut-on décemment affirmer qu'on sera capable de gérer 2 millions de tonnes par an de lixiviation ? On ne peut en aucun cas garantir que ce risque soit parfaitement maîtrisé.
Creuse toujours, transition et extractivisme made in France. Vous retrouvez ce reportage dans son intégralité demain, signé Guy Vanctil.